Au seuil de l'invisible, de Noël Roger.
Denis, tu ne manges pas ta soupe ? Le garçon tressaillit, parut se réveiller, découvrit la table en bois de sapin et l'assiette fumante. D'un geste machinal, il mangea. Debout en face de lui, tassée dans sa robe sombre, la vieille femme le regardait avec une obscure inquiétude. Elle n'arrive pas à comprendre. La vie lui a pris ses autres enfants, et celui-là, son dernier fils, est atteint d'un mal étrange. Ce garçon si robuste et si gai, à cause de son adresse, de sa force, la commune lui remet chaque été la surveillance des moutons dans ses mauvais pâturages accrochés entre les dents noires. Cette année, insensible au retour du printemps, il est de plus en plus soucieux, il maigrit, refuse la nourriture, dort à peine. La mèche, consultée, a répondu « Ce n'est pas dans le corps qu'il a son mal. » Elle n'ajouta rien, secouant la tête. Ses petits yeux, fentes qui étincellent entre les paupières parcheminées, exprimaient une sorte de crainte, et la perplexité de la veuve Sergniaud augmente chaque jour. Le mal se déclara durant ces mois d'hiver où le jeune homme rejoint les frères Lancrenot qui s'adonnent à la contrebande sur les cols des Dents Noires. Il gagne ainsi plus d'argent par tournée que durant une saison de berger. Sa mère n'aime pas ces expéditions aventureuses. Elle redoute les sentes surplombant le précipice, où les hommes trop chargés n'avancent qu'à grand-peine, et les bourrasques nocturnes et les coups de feu des douaniers. Une nuit, un jeune douanier tessinois fut écrasé sous une avalanche de pierres lancées au bas du col. Ce malheur a bouleversé Denis. Désormais, il refuse de suivre ses amis Lancrenot. Il semble étranger à lui-même, les yeux dans le vide, et l'air de ne pas entendre quand on lui parle. Il ne supporte plus l'obscurité. Le soir, s'il trouve la veuve assise dans sa cuisine sombre, il supplie d'une voix haletante « Allume la lampe, vite !» Après le souper, lorsqu'elle se dirige vers l'étable, il agrippe le falot et marche sur les talons de sa mère. « Je vais avec toi !» Ses yeux fixes semblent contempler des choses que personne ne peut voir. Les rafales du vent deviennent odieuses à ce berger qui bravait les orages. Un soir de tempête, il demeura, livide, auprès du feu, les dents claquantes et les poings bouchant ses oreilles. Sa mère devine qu'il ressasse des rêveries malsaines et ne sait comment le défendre et le protéger. Avec une tristesse mêlée d'espérance, elle voit venir le jour où les troupeaux se mettent en route pour l'alpage. Elle s'attache à cette perspective, la montagne lui rendra la santé. Une belle matinée de juin. Dès l'aube, Denis rassemble les moutons sur la place du village. De tous les chalets sortent des femmes et des enfants qui poussent les bêtes récalcitrantes. Le signal du départ est donné lorsque paraissent les rayons du soleil. Des chiens prennent la tête, les moutons suivent et se bousculent. Tout en trottant, le bruit des sonnailles légères devance le troupeau et les cris des gars l'escortent jusqu'à l'Alpe de Rova. Dernière terrasse au pied des Dents Noires. La veuve Sergniaud accompagne Denis le long du village. « Denis, chuchote-t-elle, ne dominant plus son anxiété confuse, Denis, le temps va te durer là-haut. » Il ne répond rien. Il a ce regard qui semble aller au-delà des êtres et des choses. Du geste, elle invoque les cimes, d'un bleu léger, surgit dans la déchirure de la forêt. « Denis, il fera bon là-haut. » Tu aimes la montagne, elle te fera du bien. Timide parole qui essaie d'exprimer une espérance. Peut-être, marmonne-t-il. Son rire douloureux la rend perplexe. Elle ne hasarde plus un mot. Elle a croisé des routes, il s'arrête pour les adieux. Déjà les moutons s'engagent dans la rude montée. Denis, tu descendras, quelquefois? Bien sûr. Il la regarde avec une brusque tendresse qui semble ranimer ses yeux mornes et dont quatre syllabes deviennent les seules interprètes. « Porte-toi bien. » Il court rejoindre le troupeau. Elle, immobile, écoute s'affaiblir le chant des sonnailles. Le soleil baissait lorsque Denis et ses moutons parvinrent dans la haute combe verte qu'emprisonnent des pierriers et des rocs abrupts. Si fraîche, si fleurie, elle semble un jardin secret, interdit aux souillures humaines. La dernière neige a fondu. Les blanches renoncules épandent sur l'herbe fine une autre neige, plus douce et plus fragile, où flamboient, çà et là, des anémones pourprées. Les gentianes prodiguent leur azur. Le délicat printemps de la montagne sourit jusque sur les roches, que parsème des saxifrages. Denis rassemble ses moutons, les compte, les remet à la garde des chiens, suivant une séculaire coutume, et gravit les pans droides pour retrouver là-haut cette cabane de pierre où il dormira. Dormir. Sentinelles géantes, les dents noires rapprochent leurs cimes qui retiennent les rayons du couchant. Au-dessus des ténèbres du monde, elles resplendissent d'une vie mystérieuse et semblent darder un sourire diabolique. Il revoit cette nuit de dégel où il monta rejoindre les lents créneaux près du col. Les dents noires culbutaient leurs pierres, le harcelant d'une bacchanale maudite, jetant la mort à ses trousses. Et soudain, l'alerte, les douaniers, la poursuite, les sommations, l'impérieux appel, les coups de feu qui jaillirent des ténèbres, le sifflement des balles plus proche de minute en minute, les cailloux lancés par Célestin sur l'invisible adversaire, ce bloc énorme que Denis précipita dans la combe, et le cri terrible au-dessous d'eux, dominant le vacarme de l'avalanche déchaînée. Une voix jeune, aux intonations presque féminines. Quelle terreur et quel désespoir passaient dans cette voix qui se tut brusquement. Denis, les épaules raidies contre le mur de la cabane, évoque chaque détail de la nuit infernale, leur épouvante, leur fuite, l'arête qu'il fallut franchir en se traînant sur les genoux, de crainte que leurs ombres ne fussent aperçues d'en bas, dressées contre le ciel, la descente périlleuse le long du pas du diable, une étroite corniche qui surplombe l'abîme. À travers les nuées, à travers la tempête de neige, les sinistres dents noires les regardaient comme d'abominables figures vivantes. Il atteint son chalet obscur, entrebâille la porte et, sans bruit pour ne point réveiller sa mère, se glisse jusqu'à son lit. De bonne heure, le cauchemar continue. On ramène sur un traîneau le corps de la victime, ce jeune Tessinois qui aimait venir fumer sa pipe devant le chalet Cernia. Denis fait un geste comme pour écarter cette image. Il se détourne des dents noires, hostiles, inondées d'une lumière, ensanglantant leurs arêtes. Il pénètre dans la cabane, déplie une fourrure de brebis, s'allonge, ferme les yeux. Un nouveau supplice l'attend. Il se figure que le douanier tessinois se penche à son chevet et, comme naguère, lui offre des cigarettes. Denis se rappelle leurs amicales causeries, retrouve les inflexions mélodieuses de cette voix et les paroles prononcées. Les montagnes chez vous sont sauvages et méchantes. Les nôtres sont si douces. Elles baignent leurs pieds dans le lac. Des forêts de châtaigniers couvrent leurs pentes. La vigne s'accroche à des troncs d'arbres. Le berger, qui commençait à dormir, se réveille en sursaut. Le cri d'agonie traverse sa chair comme une intolérable douleur. Et le fracas de l'avalanche déchaînée, emportant un cadavre, l'affole. Il se lève, il grelotte. La chaude clarté de l'aurore ne le délivre point de ce frisson. Les jours passent. Denis, machinalement, s'acquitte des menus actes coutumiers. Il escorte ses bêtes lancées à la recherche de l'herbe rase jusque dans les éboulis. Chaque soir, il rassemble les agneaux et les compte. Lorsqu'ils accourent à son appel, il n'éprouve aucun plaisir. Les gambades des chiens ne le déritent pas. Toute cette montagne lui est devenue étrangère. Il ne sent plus que ce regard fixé sur son visage, un regard qui ne pardonne point. Quelquefois, il se livre à de folles escalades, goûtant à éprouver la souplesse de ses membres, un réconfort. Tout à coup, il prend peur. Le schiste glissant échappe à ses prises. Son pied tâtonne. Ses yeux se détournent du précipice. Il a le vertige, lui. Alors, il se hâte de redescendre, tremblant, comme s'il se croyait suivi par un fantôme. Ce matin, juché sur le col, il perçoit le son d'un grelot. Ses regards fouillent le dédale des rocs, quelques moutons perdus sans doute. La cloche angoissée appelle au secours. Denis s'élance, escalade une paroi, explore les névés. Soudain, la clochette retentit plus lointaine dans une direction opposée. Il veut la rejoindre,
se laisse
couler le long des roches. Et voici qu'elle sonne éperdument sur le col que Denis vient de quitter. Il s'arrête, baigné de sueur, et les dents claquantes. Ce grelot, c'est le grelot du diable, fourbe appel qui attire les bergers dans l'abîme. Le tintement satanique s'empare de toute la montagne. Redescendu à la hâte, Denis compte ses bêtes, nul ne manque. Épuisé, il se couche sur l'herbe, indifférent aux caresses des chiens qui lèchent ses doigts. Ce peuple de cimes, ces pierriers, ce désert de rocailles enferment une puissance néfaste, acharnée contre lui. Les dents noires n'ont pas voulu sa mort, elles disposent de châtiments plus terribles. Il éprouve l'envie d'obéir à la clochette maudite qui le précipitera dans le gouffre. La mort, mais pour lui, un meurtrier, la mort cesse d'être le refuge promis à tous les hommes. Elle devient le déchaînement des forces maléfiques. Mourir, entrer dans un effroyable invisible, dont l'épouvante déjà rôde autour de lui. Une épouvante qui serait éternelle? Non, il faut vivre, afin de la conjurer, en expiant peut-être. Ah, des figures humaines, des voix qui lui parleraient. Il court jusqu'à l'Alpe de Rova, s'arrête devant le chalet d'Innocente, une vieille fille robuste et bonne, frappe à la porte. « Tu as pauvre mine, dit-elle, tu viens d'être malade? Entre, soupe avec moi, tu remonteras demain, les moutons paraissent tranquilles. » Elle les observe du seuil de son chalet, dans la lumière oblique. On distingue le troupeau, masse claire, qui remue imperceptiblement parmi les roches teintées de rose. Désormais, chaque semaine, le berger cherche un réconfort auprès d'Innocente. Il s'assied dans un coin, la suit des yeux, tandis qu'elle va qu'à ses besognes, en s'étonnant de le voir si songeur. À la tombée d'un jour de fun, où les rafales de pluie se succédaient, Denis se précipita chez Innocente, blême et les yeux fous. « les pierres !» redit-il, « elles roulent dans la montagne !» Il s'interrompt, haletant, écoute le bruit d'une avalanche que les échos répercutent, démesurément grossie et prolongée. « Eh bien, quoi, les pierres ? » interroge Innocente. « Laisse-les donc rouler. Tu es un gars trop habile pour te mettre sur leur passage. » Il secoue les épaules, tremble de tous ses membres. Elle pressent un esprit malade et cherche à le distraire. « Denis, on danse ce soir à l'auberge. Va donc rire avec les autres. L'an dernier, tu ne manquais pas de faire tourner les filles. » Sans une parole, il se blottit près du feu. Le lendemain, remontant à l'alpage, il croise la sœur des Lancrenaux, qui l'arrête sans façon. Elle rit de toute sa bouche éclatante. « Pourquoi n'étais-tu pas à la danse hier ?» Il baisse les yeux et ne répond rien. Naguère, il empoignait avec joie cette grande fille souple, jamais lasse de valser. Alors que les autres danseuses criaient merci, elle le suivait sans fatigue, jusqu'à ce que s'éteignît la ritournelle de l'accordéon. « Tu me parais malade !» reprend l'enjôleuse. « Et triste, tu t'ennuies là-haut, tout seul ?» Il la regarde, tenté d'ouvrir son cœur à cette fille aux yeux de sirène qui le plaindra, dont les gentillesses dissiperaient peut-être ce cauchemar. Non, impossible, une Lancrenaux. « J'irai te faire visite un jour, sur tes alpages, » continue-t-elle en le provoquant du regard. Denis tressaille. Une exclamation lui échappe. « Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu viennes. » Il s'éloigne, laissant la fille abasourdie. Denis est monté rejoindre son troupeau et cette solitude, peuplée de fantômes, plus délétère sous la pluie. Les nuées rampent comme des bêtes apocalyptiques autour des dents noires dont les cimes semblent échanger d'effroyables secrets. Denis les regarde avec terreur. Des ennemis. Toutes les choses deviennent des ennemis. Ils jalousent les moutons qui s'égaillent à la recherche d'herbes savoureuses et ne pensent à rien. Car la pensée est un abîme où se perd la joie de vivre. Jamais plus il ne sentira autour de lui cet acquiescement heureux de la montagne ensoleillée, ce calme, cette impression d'une bienveillance universelle. Un soir, Denis descendait le pas du diable, portant sur ses épaules un agneau égaré, lorsqu'il aperçut en face de lui une silhouette d'homme, immobile, et que brouillait le crépuscule. Un homme? Un fantôme, peut-être. Le garçon s'arrêta, glacé. Pris de vertige, il vacillait. Comment faire reculer cette forme qui barrait le passage? L'agneau, en bêlant, le sauva. Les doigts du berger rencontrent la douce laine, le flanc tiède, la petite bête, confiante, le sollicite. Se raidissant, il ose lever les yeux. la forme sombre a disparu. Il assure sa marche le long de l'abîme, gagne le pierrier, commence à courir. Le lendemain, il frappait à la porte des Lancrenaux. Célestin l'accueillit avec un sarcasme. « Tu veux retourner là-haut ? J'en étais sûr, je t'attendais. »«
Oh, ne te moque pas !»
Denis secoue la tête, cherche ses mots. « Alors, quoi ?»«
Je suis venu te prévenir, » balbutie-t-il.
« Je vais me dénoncer. »«
Te dénoncer ? À la police ? Ah ça, tu deviens fou !»«
Ce soir, je dirai aux gendarmes que c'est moi qui ai précipité le gros bloc, moi qui ai tué. Je ne parlerai pas de vous autres, bien sûr. »
Célestin se dresse devant le garçon, observe sa pâleur, ses yeux hagards, l'altération du visage flétri, et il appréhende cette révolte.
« Imbécile ! Les gendarmes feront une enquête qui prouvera que tu nous as rejoints cette nuit de bagarre. Et c'est la prison pour toi, comme pour nous.
Lancrenaux, aie pitié ! Je ne peux plus ! Je ne peux plus !»
Essayant de motiver sa détresse obscure, Denis explique « En prison, je serai gardé. »
Il fixe sur Lancrenaux ses yeux agrandis que harcèlent des visions terrifiantes. Il considère la forme robuste, le visage rude et jovial qui ricane. Il se tait découragé.
« Tu tiens à la prison !» persifle Célestin. « C'est tout simple. Commets un nouveau crime et tu te dénonceras. Mais quant à l'affaire du Tessinois, prends garde. Silence ! Silence absolu ! On ne trahit pas les camarades.
« Je ne voulais pas trahir, » implore Denis, qui soutient le dur regard. « C'est pourquoi je te demande.
Jamais, jamais, inutile de te rebiffer. »
Denis, sans répondre, s'éloigne. Lancrenaux, le retenant par le bras, profère visage contre visage.
« Si tu me désobéis, tu pourrais t'en repentir. Rapport à ta vieille maman. »
Menace obscure et terrifiante que Denis ne cesse de ressasser. Il s'imagina que Lancrenaux lui permettrait d'avouer le meurtre du Tessinois. Dans ce refuge de la prison, délivré de l'épouvante, expiant son crime, Denis sentirait s'apaiser cette lourde malédiction attachée à ses pas.
Ah, oh, sa vieille maman, dont la présence le protège, si elle savait.
L'esprit chaviré, il répète les paroles brutales de Célestin.
Un nouveau crime ?
Une haine subite s'empare du berger. Cet homme lui vole toute la joie de vivre, prétend le maintenir dans sa détresse et le condamne au malheur éternel.
Ce matin d'août, l'atmosphère est si pure que Denis, de sa cabane, peut reconnaître la silhouette de Célestin Lancrenaux qui escalade le pierrier, se rapproche, s'engage sur le pas du diable. Denis le guette et compte l'assaillir à volée de galets. Pourquoi, soudain, se sent-il incapable de vaincre son ennemi traîtreusement ? Il s'étonne d'entendre sa propre voix qui l'appelle «
Lancrenaux, prends garde, Lancrenaux !»
Le contrebandier s'arrête, discerne au-dessus de lui une face blême, hagarde, ses yeux dilatés, et murmure, saisi de terreur, « Il est fou, je suis perdu !» Quelques secondes suffisent pour que Denis le rejoigne et l'agrippe furieusement.
« Ah ça ! Hurle Célestin, nous ne pouvons nous battre ici, c'est idiot !»
Dans les yeux du berger, il lit une implacable résolution. Néanmoins, il se croit plus vigoureux que cet adolescent trop maigre. Il s'arc-boute à la paroi et s'acharne à lui faire lâcher prise. Denis le force à reculer, s'insinue entre la roche et lui. Une brève lutte. Et Lancrenaux plie. Ses mains battent le vide. D'un effort désespéré, il empoigne la jambe de son agresseur, le paralyse à son tour. Les deux hommes oscillent une minute, leurs respirations haletantes se confondent, et Lancrenaux s'affaisse, s'écroule dans l'abîme, entraînant Denis, dont la prière suprême est brisée.
« Maman ! Maman !»
On découvrit, au pied des parois, leurs cadavres rompus, seule la mort desserra l'étreinte du berger. Sous la couronne sanglante des cheveux, sa figure enfantine que hantèrent les cauchemars de l'invisible a retrouvé la paix. Ici se termine « Au seuil de l'invisible » de Noël Roger, enregistré par Christiane Jehanne.